Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes radis noirs, mes boudins blancs, désolé, j'ai une petite voix, c'est parce que j'ai une migraine ophtalmique, mais rien de grave, sinon ça va super. Le tournage à Angoulême se passe toujours aussi bien, vraiment c'est un régal. Mardi c'était mon anniversaire, j'ai eu 34 ans, je redoutais énormément ce moment, 34 ans c'est pour moi un âge d'adulte, de femme. Je m'étais jamais vraiment imaginé qu'un jour j'aurais 34 balais. Et voilà, pour moi c'est l'âge d'être maman, vous le savez, je peux pas m'empêcher d'être angoissée par cette question. Et voilà pourquoi l'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Nous recevons l'autrice, journaliste, féministe, Judith Duportail. Elle est la Française qui a défié Tinder selon The Times, l'autrice de L'amour sous algorithme. Elle a enquêté sur l'influence des réseaux sociaux sur l'amour, notamment dans son podcast qui est Miss Paddle, où elle raconte sa relation toxique de 2 ans avec un homme cruel qui la pousse jusqu'à la violence physique, jusqu'à sa violence. Judith est très courageuse de parler de ce passage à l'acte, souvent tu. Elle permet d'en décrypter les raisons. Judith aborde plein de sujets tabous dans son nouveau podcast « On ne peut plus rien dire », où l'on a pu entendre d'ailleurs Myriam Levin. Judith apporte un regard distancé sur la congélation d'ovocytes. Elle met l'accent sur les bienfaits sur la santé mentale des femmes, le soulagement d'avoir prise, mais rappelle l'injustice que le discours ambiant ne porte que sur la fertilité des femmes et non sur celle des hommes, pourtant en déclin. Judith a aussi reçu dans son podcast l'écrivaine Claire Touzard, future invitée d'une autre, Lisez féminin et sans alcool. On a pu entendre Judith dans l'épisode bonus du Cœur sur la table de Victoire Toyon, Le Cœur en live. Et Judith a aussi fait une enquête hors série pour Le Cœur, Les ex de François. Judith est cofondatrice du collectif Les Journalopes, aux côtés entre autres de Pauline Verdusier, rencontrée sur Orgasmique. Les Journalopes est un collectif de femmes journalistes indépendantes. Elles écrivent sur l'amour, le sexe, les libertés, la guerre. Nous avons enregistré cet épisode le 1er mars. Judith était alors à 5 mois de grossesse. Aujourd'hui, Judith va bientôt accoucher. Vous pouvez soutenir, s'il vous plaît, tout le travail qu'elle fournit sur Instagram en partageant son parcours de PMA hors couple, en précommandant son nouveau livre « Maternité rebelle » édité par Binge. Un livre pour donner de l'espoir aux femmes qui vivent une situation identique et pour dissocier amour et maternité, le couple et la parentalité. Enfin maintenant, l'épisode. Bonne écoute! Oui, et d'ailleurs, tu viens quand tu veux. Hein.
Mais oui, grave, j'ai vraiment fait le soir en commençant à
Bah oui, tu m'étonnes.
Mais,
bah
ouais. Mais oui, hein, je snob pas. Hein. C'est juste
ah non,
que
bien sûr.
J'ai 21h.
Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. T'as combien de mois là ?
5.
Ouais, ça commence à être un peu fatigant.
Ah ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, j'imagine. Alors, je t'ai écrit un petit poème, Judith.
Ah, trop bien.
Très court. Ouais. Chère Judith, je t'avais découverte sur Click quand tu dénonçais l'algorithme de Tinder. Et déjà, je m'étais dit, voilà une femme courageuse et passionnée par la lutte de l'intime. Je t'ai suivie sur les réseaux sociaux et écouté ton podcast « On ne peut plus rien dire », et notamment la grande discussion récemment sur le célibat ou encore celle avec Claire Touzard. J'aime ta franchise, ta liberté de ton, et je la retrouve à chacun de tes posts incroyablement touchants sur ton parcours PMA. J'imagine que de ces textes découlera peut-être un livre, tant ces récits sont encore trop rares et précieux. En attendant, accepterais-tu de raconter aujourd'hui comment cette aventure a commencé ? Parce que cela fait du bien de déconstruire l'idée de la famille, de l'amour, du couple, et qu'on a besoin de voix comme la tienne pour combattre le discours ambiant, conformiste, voire bien réactionnaire. Merci infiniment, Judith, d'être là aujourd'hui.
Waouh, merci, c'est trop bien.
Ah, je suis trop heureuse.
Génial.
J'avais commencé, je sais plus, j'ai invité Myriam Levin dans un podcast récemment qui avait parlé de sa congélation d'ovocytes dans son livre. Et j'ai fini l'épisode en lisant tes posts en outro, mais parce que je trouvais ça déjà très inspirant, la possibilité qu'elle proposait. Et puis ensuite, je me suis dit, OK, ça, c'est une solution. Mais quelle est l'autre solution? Et puis, finalement, une solution, quand on voit les délais pour la congélation d'ovocytes en France, parfois la longueur des rendez-vous, tu te dis, mais finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup déjà, parfois, d'entamer tout simplement un parcours PMA solo? Ou toi, comment est-ce que tu aimes le dire?
Oui, j'aime PMA solo, ou j'aime bien dire PMA hors couple, parce que le côté solo, enfin l'idée que... Il y a un truc qui me dérange dans le fait de dire que dès que t'as pas forcément de mec ou de partenaire officiel, t'es forcément seule. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop l'expression faire un enfant toute seule. Déjà parce que c'est pas biologiquement possible. Enfin voilà, on peut pas le faire seul. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on a pas... J'ai l'impression que cette expression... Elle recouvre un peu une menace dans le sens de dire si t'as pas de mec, c'est que tu vas être seule et misérable et ta vie va être atroce. Enfin, c'est un peu ça que j'entends derrière.
Ouais, ouais.
Donc c'est pour ça que solo j'aime bien, mais sinon j'aime bien dire hors couple. Voilà.
Hors couple, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est super, c'est une super. Je le formulerai comme ça dorénavant.
Ou j'aime bien dire sola aussi.
Sola?
Ouais, parce que ouais. Au féminin.
Ouais, ça fait penser à solaire.
Voilà, c'est ça.
Sola, soleil. Et est-ce que toi, justement, pour repartir au début, est-ce qu'à un moment, tu t'étais branchée sur la congélation d'ovocytes ou c'est jamais quelque chose que tu as envisagé?
Oui, ouais. C'est un peu comme ça que tu as commencé. D'accord. Aussi mon histoire. Au début, j'envisageais peut-être de congeler mes ovocytes. Je m'étais renseignée parce que j'ai toujours été très stressée par les questions d'horloge biologique, même si j'aime pas cette expression. Parce que j'ai toujours eu peur de manquer ma chance pour devenir mère. Parce que j'ai jamais été, moi, de celles qu'enchaînent les histoires qui sont toujours maquées ou pour qui l'amour, ça a l'air assez simple. Je suis plutôt de l'autre équipe.
Comme moi.
Donc, j'ai parfois été en couple, parfois pas en couple, parfois très heureuse, très malheureuse. Enfin bref, j'ai pas l'impression que ce soit une donnée sur laquelle j'ai beaucoup de contrôle. Et donc, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur. Et la congélation, je me suis renseignée quand j'ai approché des 35 ans. Mais les conclusions auxquelles j'en étais arrivée, moi, en lisant les articles scientifiques et en voyant les délais, c'est que, ça, hélas, passé 31, 32 ans, je ne voyais plus trop l'intérêt, physiologiquement, d'aller au travers de toute cette procédure lourde et difficile. Parce que pour avoir le plus de chances que ça marche, il faut congeler plein d'œufs et donc... Vaut mieux le faire le plus jeune possible.
Oui.
Et puis ensuite, j'avais pas envie d'attendre diplôme, moi, avant d'être mère.
Je comprends.
J'en avais marre d'attendre déjà, moi. J'étais prête. Je me faisais chier. C'est pas cool. Enfin, c'est pas vrai, mais... j'étais prête, moi, quand je passais à côté des... Enfin, quand j'ai un petit chien et quand je promenais mon chien le matin, parfois, je le promène à l'heure de l'école. Il faut en parler de cette douleur, un peu, de la douleur de quand tu voudrais... parents, ouais. Mère, et puis que tu l'es pas encore ou que tu le seras peut-être pas et que tu vois le petit bonheur tout simple des autres ou les, je sais pas, aller à la petite main dans la grande main ou je sais pas, les vacances, enfin tous les trucs qu'on idéalise un peu ou je sais pas, je passais à côté des manèges le samedi matin, je voyais des darons qui rigolaient avec leur café, je me disais mais moi j'ai envie de faire ça avec mes copines aussi, enfin...
Excuse-moi, je suis tout de suite émue.
Je
m'attendais pas du tout, mais je trouve ça hyper, hyper vrai et juste, et en plus moi je suis pas enceinte, j'ai même pas l'excuse des hormones en ébullition.
Ah bon, moi aussi je suis émue du coup, ouais.
Ah ouais, ouais.
Non, je suis désolée, je voulais pas te faire pleurer.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, c'est une peine un peu tue parce que tu as l'impression de jouer le mauvais rôle. Parce qu'en fait, c'est comme si le bonheur, la joie, l'enfance, tout ça, alors que tu devrais avoir un sourire et te réjouir, en fait, ça vient trigger un truc intime. Et résultat, on se sent coupable de ce pincement.
Complètement. Et puis, c'est un peu... J'avais un peu honte d'en parler parce que j'avais l'impression de cocher tellement tous les clichés de la meuf de 30 piges qui va absolument tomber enceinte. Et c'est terrible que ce soit devenu un stigmate d'avoir envie d'être mère. C'est quand même belle, c'est quand même beau, c'est quand même cool. Enfin, et puis je souffrais de moi beaucoup de cette posture passive et attentiste où j'avais l'impression que dans les années 70, les filles, elles disaient « un enfant si je veux ». Et moi, j'avais l'impression que ma situation, c'était devenu « un enfant si j'en trouve bien un qui veut », quoi. Ou « s'il veut », tu vois. Et je me sentais cette pression de cette horloge biologique. Je me suis séparée de mon ex, j'avais 33 ans et quelques. Et après... Quand j'étais dans les contextes de drague ou de séduction, j'avais que ça dans la tête. Je me disais, comment j'en parle du fait que moi, j'ai envie d'avoir une famille? Comment j'en parle sans faire fuir le mec sans qu'il me prenne pour une folle. Puis inversement, tu rencontres aussi les fous de bébé en face, hein, les mecs qui veulent absolument faire un gosse tout de suite et ça donne pas non... ça fait un peu flipper aussi. Tu te dis, est-ce que je suis qu'un utérus pour cette personne? Donc j'avais l'impression d'être dans une impasse en fait. Et je me disais, je sais pas comment font celles et ceux qui arrivent à se rencontrer et tomber amoureux à cet âge-là, avec cette idée en tête. Parce que pour moi, il y avait tellement de pression que la légèreté, le lâcher-prise qui est nécessaire à faire une rencontre, j'en étais incapable. Mais totalement incapable. Et je sais plus où je voulais en venir. Non, mais
c'est,
ouais.
Et donc ça, c'est le point de départ. Et puis, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, il y a dans un de tes posts, tu dis... que tu réfléchis, c'est un truc qui m'a hyper touchée, c'est que tu réfléchissais déjà, ce que tu dis, oui, que t'aurais pu prendre un mec comme ça au hasard dans une soirée, mais que c'était pas ce que tu voulais. Tu voulais pouvoir, tu réfléchissais déjà dans la stratégie de quel serait le discours que tu dirais un jour à cet enfant.
C'est ça. Je voulais pas essayer de provoquer le destin en tombant enceinte par hasard avec des milliards de guillemets.
Ouais.
Parce que je trouvais ça très manipulateur quand même. Et franchement, un peu problématique, quoi. C'est dans le genre, tu utilises quelqu'un contre son gré. Alors on pourrait dire c'est de leur faute, ils pourraient mettre des capotes, c'est vrai. Mais dans ce cas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans non plus, quoi. Enfin, je voulais une situation qui soit clean, dont je puisse être fière.
Ouais.
Et que je puisse raconter, voilà. Et aujourd'hui, heureusement, je sais pas ce que j'aurais fait sincèrement dans les années 50-60. Hein. Ça se trouve, je l'aurais fait. Hein.
Ouais, oui, ouais. Bien sûr.
Ça se trouve, hein. Je veux pas juger les femmes.
Bien sûr.
Mais je trouvais ça... Je me dis, aujourd'hui, on a quand même la possibilité, avec les dons, avec la PMA, avec la loi, qu'en cas de les choses, d'essayer de faire les choses bien. Et je voulais, voilà, pouvoir raconter une histoire, une belle histoire. Et je trouvais que... Ce que je dis, les conclusions auxquelles j'en suis arrivée, c'est quand même que pour... Alors, mes enfants, parce que finalement, je suis enceinte de jumeaux, mais...
C'est extraordinaire.
Oui, c'est la petite cerise sur le gâteau.
Oh, waouh. La vie est extraordinaire. Ouais, c'est génial.
Et donc, ils n'auront pas de papa, mais je trouve ça quand même... Je trouve que notre histoire, c'est aussi une histoire d'amour. Parce que faire un don de son sperme ou de ses gamètes, de son ADN, comme ça, à l'inconnu, au monde, en disant « je veux aider quelqu'un à fonder une famille » et qu'après, bah, moi, ça m'a aidée, c'est aussi une belle histoire. Et c'est aussi... voilà, il y a quelqu'un qui m'a aidée, que je ne connais pas, mais grâce à qui j'ai pu réaliser mon rêve. Et cette personne, je ne la connais pas, mais je sais que c'est quelqu'un de très généreux. Et... Je voulais pouvoir raconter ça, ouais.
C'est ouais, vrai. Au moins, t'es en maîtrise de ton discours.
Exactement.
Et t'as rien à cacher.
J'ai rien à cacher.
Et il n'y a rien de honteux ou de contre la volonté de quelqu'un.
Exactement.
Il n'y a pas...
Exactement. Tout le monde est consentant.
Ouais. Voilà.
Tout le monde est consentant. C'est ça. Le mec, il savait ce qu'il faisait. Il a signé un papier et tout ça.
Ouais, ouais.
Voilà. Pour moi, c'était quand même important.
Et par contre, t'as le courage de faire germer l'idée avant les jumeaux, avant même que ce soit légal en France. Là.
Oui, c'est ça. En fait... J'ai commencé à vraiment flipper autour de mes 35 ans et j'en ai parlé à mon gynéco, j'ai fait un test de fertilité et mes résultats étaient vraiment pas terribles. Et là, en fait, mais je suis contente de l'avoir fait parce que d'être face à mes prises de sang et de voir des résultats pas terribles, ça a tranché le débat en deux secondes.
Ouais.
Je me suis dit, j'en ai marre d'attendre le mec parfait, je veux pas passer à côté de ma chance. Donc c'est pour ça que je me suis renseignée sur comment... Moi, ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai acheté du sperme dans une clinique danoise que j'ai fait venir à Paris. Et il y a un gynéco qui m'a inséminé clandestinement. Je ne recommande pas de faire ça au final parce que les mecs qui font ça, j'en veux pas au gynéco parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi à un moment où j'en avais besoin. Mais ils ne maîtrisent pas trop ce qu'ils font, les doses d'hormones et tout. Donc moi, aujourd'hui, je suis enceinte de jumeaux, par exemple. C'est quelque chose que j'ai accepté, je suis contente, mais c'est la preuve que j'ai pas été complètement... Enfin, que ça n'a pas été fait avec beaucoup de...
Parce qu'il a surdosé ?
Oui, en fait, après, j'en ai parlé avec la gynéco qui me suit pour ma grossesse, elle m'a dit « Ouais, vous aviez quand même des grosses doses, quoi. Ouais. » Donc, c'était... Bon, après, c'est ça, quand on fait les choses clandestinement...
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que
c'était avant que c'était avant que tout ça et même aujourd'hui c'est
et vu les délais d'attente, c'est tellement compliqué. En fait, cette loi, elle existe dans la théorie, mais dans la pratique, c'est très compliqué d'avoir accès à la PMA.
Ouais.
Donc il va continuer à y avoir des pratiques un peu alternatives et qui en fait mettent en danger un peu la santé des femmes. Donc c'est une avancée révolutionnaire l'ouverture de la PMA et de la congélation des ovocytes, mais pas encore suffisamment, en fait.
Ah non, c'est sûr qu'on est en retard, ouais. Mais quand même, des discours comme le tien, précurseurs et hyper courageux, font avancer les choses, parce que je pense que de plus en plus... En tout cas, moi, là, si je réussis à l'envisager, c'est grâce à toi.
Ah bah, franchement, je suis trop émue que tu me dises ça.
Ouais, vraiment, tu vois, je me retrouve énormément dans ton discours. Je me dis, bon, bah... Je sais pas pourquoi je fais pas partie de la team pour qui ce c'est facile, mais en tout cas pour moi ça l'est pas, et j'ai pas rencontré l'homme. J'aurais rêvé, ça aurait été mon plan A, de tomber folle amoureuse, et même quand j'étais amoureuse d'hommes, je me disais, j'envisageais un peu l'idée d'un bébé avec eux, en fantasmant les traits que le bébé aurait de nos deux traits mélangés, tu vois. Mais ça, c'est un truc auquel je suis en train un peu à peu de renoncer de manière apaisée pour suivre un nouveau rêve. Est-ce que, justement, toi, cette question de l'inconnu du visage du bébé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé? Est-ce que tu y as pensé?
Pas trop. Et bizarrement, pas trop. On m'a posé la question un peu de « ça te fait pas bizarre de pas savoir à quoi il ressemble, t'as pas peur qu'il soit moche, le donneur ?» Et je suis là « mais mon enfant, il va être magnifique, c'est tout ouais. ?» Enfin, ouais. Je suis assez sûre. Mais je reviens sur ce que tu viens de dire, moi aussi, je rejoins complètement ce que tu dis. Et moi, mon rêve, ça aurait été la famille Ricoré, hein. J'étais pas... C'est pas un plan machiavélique contre les hommes, mais après, quand les choses se présentent pas comme ça, dans les temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas passer à côté de ma vie pour une histoire de timing?
Bah, c'est clair, non, c'est sûr. Ouais. Et puis, comme tu dis, à un moment, il y a aussi autour de nous tellement de couples qui se séparent, ou de... C'est je veux clair. Dire, en fait, il y en a beaucoup déjà de femmes hors couple.
Bien sûr.
Donc, c'est juste... Et toi, tu t'as jamais considéré l'adoption?
J'ai l'impression, je m'étais un peu renseignée, j'ai l'impression que c'est encore plus dur l'adoption quand t'es une femme hors couple, justement. Que c'est assez réac, les procédures d'adoption. Qui valorisent la petite famille, la petite pavillon de banlieue, le toutou, enfin voilà. Bon, c'est une impression, hein, j'ai pas fait une enquête de 400 pages là-dessus, hein, donc je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dur.
Ouais, et justement sur le fait de dire des bêtises, c'est ce que j'apprécie aussi dans tes posts, c'est que tu témoignes de ton parcours intime sans être médecin. Et à chaque fois, je vois dans les commentaires, il y a des gens qui posent des questions ultra médicales ou précises, et tu dis, en fait, il faut vous adresser, ça doit être encore peut-être une charge. C'est pour ça que j'apprécie que tu sois là aujourd'hui, parce que, en fait, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des personnes extrêmement maladroites, vu que c'est encore assez méconnu. Toi, comment justement tu te protèges? Tu l'expliques un peu dans un post que c'est pas tellement les amis, mais les amis d'amis. La curiosité parfois qui n'est pas la curiosité bienveillante, mais une forme de curiosité intrusive. Ça t'arrive à faire barrage?
C'est depuis que j'ai commencé à raconter mon parcours sur les réseaux sociaux, je mesure à quel point il y a un déficit d'information, parce que je suis assaillie de questions extrêmement techniques et précises sur des parcours PMA auxquels je peux pas répondre. Bien sûr. C'est aussi des gens qui ont beaucoup d'angoisse, parce que c'est des parcours très très stressants. Moi aussi, j'étais très très angoissée, et qui cherchent un peu partout de l'apaisement, un peu. Et hélas, je peux pas être la personne qui leur apporte ça, parce que je suis pas médecin, pas sage-femme, pas doula, parce que j'en ai pas les compétences, quoi. Mais donc ça, c'est un truc assez étrange à gérer. Et puis parfois les gens sont pas très, parfois il y a beaucoup d'anxiété, parfois c'est pas très gentil.
Oui.
Je me fais un peu engueuler, quoi. Ouais, ouais. Si je réponds pas tout de suite, comme si j'étais
la spécialiste, la référence,
puis l'assistante de tout le monde.
Oui,
quoi.
Ouais.
Mais
ouais.
C'est le côté réseaux sociaux, ça, je pense. Et c'est vrai que depuis que j'ai entamé ce parcours et que je suis enceinte, j'ai l'impression de... À part les très proches qui étaient au courant dès le début, qui m'ont beaucoup soutenue parce qu'ils voyaient bien que j'avais très envie d'être mère et que j'en souffrais, j'ai l'impression parfois de devoir me justifier auprès de certaines personnes, ou de m'expliquer très souvent, ou de raconter. Et il y a plein de cadres où ça me dérange pas du tout, avec des proches, avec des amis, où je suis heureuse qu'on me pose des questions, qu'on s'intéresse à moi, mais il y en a d'autres, parfois j'ai l'impression de de me justifier parfois. Et ça, c'est lourd, ça, c'est vraiment lourd. Je me dis, on essuie un peu les plâtres.
C'est clair. C'est clair que les gens sont d'une ignorance et d'une maladresse. Donc, même moi, là, au tout début, déjà quand j'en parle, et même avant de parler de parcours de PMA solo, déjà sur la congélation des ovocytes, alors que j'ai 33 ans, je vais avoir 34 ans au mois de mai, les gens sont là, mais t'as le temps, en mode... mais non, enfin. Et en fait, il y a un truc aussi où c'est vrai que les gynécos disent oui, pour la congélation de vos ovocytes, c'est parfait 33-34. Bah non, en fait, c'est 25.
Ouais.
C'est là où les ovocytes, il y en a le plus. En fait, c'est pas. Et c'est comme s'il fallait pas. Faire germer l'idée trop tôt dans la tête des femmes pour qu'elles se retrouvent un peu à un carrefour finalement.
Exact, t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais t'as raison. Que oui, c'est ça, qu'on se dise ouais. qu'à partir d'un certain âge, ça devient acceptable. On se dit, ouais. ah bah si elle a 38 ans, elle a toujours pas de mec.
Bon, et bah c'est son problème.
Alors ouais. voilà, c'est ouais. ça, là, elle aurait peut-être le droit de, ouais. d'envisager les choses autrement.
Ouais.
Mais non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est. Il y a aussi beaucoup de méconnaissances autour de ces sujets. Et de jugement de valeur, parfois. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ces questions sont si angoissantes, parce qu'on nous dit tout et n'importe quoi.
Ouais.
On dit à 30 ans, dépêche-toi, mais t'as le temps, mais machin. Ouais. Mais attention quand même. Enfin, il y a un côté...
Oui, c'est ça.
Ouais. J'ai l'impression que, moi, mon rapport à ma fertilité, j'ai passé peut-être, je sais pas... de mes 15 à mes 30 ans, à être terrorisée à l'idée de tomber enceinte par accident. Et puis tout d'un coup, ça a été terrorisée à l'idée d'être stérile.
Ouais.
Mais il n'y avait jamais eu de moment où,
où
mon corps n'était pas une menace, quoi.
Ouais.
Et je pense que derrière, il y a un discours politique, je pense, qui est toujours de vouloir encadrer, museler cette possibilité de procréer des femmes ou ou notre liberté. Et puis même le fait que... J'en vois, moi, maintenant que je suis dans les communautés, du coup, de femmes qui font des enfants autrement. Il y a aussi des jeunes femmes qui, à 25 ans, sont sûres d'elles et se lancent dans le parcours de PMA. Et là, mais elles se font, mais lynchées. Lynchées,
tu m'étonnes.
Lynchées. Oh. Déjà, avoir un gosse à 25 ans, c'est irresponsable, nanani. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que la seule manière qu'on nous fout de la paix, c'est de se maquer avec un mec chiant.
C'est ça.
Et de faire un gosse à 29 et à 32.
Parfait.
Et de travailler à temps partiel.
Exactement.
Et puis de dire merci, faire un bisou, puis débarrasser la table. Et puis c'est tout. Sinon, voilà.
Ouais.
Sinon, on va toujours se trouver un moyen de nous saouler, quoi.
Ouais. Ouais, et t'as l'impression que les gens ne voient pas que les avancées, le rapport au corps, enfin, que les luttes, quand même, et je trouve ça aussi bien que tu... Oui, qu'on peut comparer aux luttes pour l'avortement ou pour la contraception, en fait. C'est la même chose, c'est pouvoir un peu avoir un peu de contrôle sur notre corps qui, quand même, parfois nous fait souffrir. Je veux dire, là, en Espagne, ils viennent de faire passer le congé menstruel.
Tout à fait.
Tu vois qu'en France, on est à des années-lumière. Enfin, les gens rigolent, ricanent. Ils font « Ah ouais, nous, après le foot, on va prendre des congés quand on a des courbatures. » Enfin, tu vois, il y a vraiment des remarques où tu te dis « Mais ah oui, vous ne pouvez même pas. » Mais je vous souhaite un calcul rénal tous les mois, en fait, pour pouvoir envisager ce que c'est. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà, alors que je suis au début du parcours, qu'est-ce que j'ai eu comme remarque bah, ou alors, parfois aussi un petit truc de pitié. Un truc de « Oh, ma pauvre mais t'es jolie, t'arriveras, tu trouveras, tu finiras par le trouver. » Comme s'il fallait forcément corréler le désir de maternité à l'amour romantique et à la nécessité d'un homme. Mais on voit bien que... En fait, c'est même deux choses complètement séparées parfois. Le père, le rêve de trouver un homme avec qui faire des enfants, un père pour ses enfants, et parfois les hommes qu'on rencontre dans notre vie, qui peuvent être des amoureux, des amants, mais qui ne seront pas le père, en fait, qui ne peuvent pas... c'est des choses parfois qui n'ont rien à voir, en fait.
Tout à fait. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur le fait qu'il y a parfois un peu de pitié. Ou de pitié inversée, où moi parfois on me dit « Ah, mais t'es tellement courageuse, moi je pourrais pas. » Et je sais jamais trop comment l'interpréter.
Oh oui. Moi je pourrais pas.
Et puis parfois il y en a qui enchaînent qui sont vraiment pas très malines. Moi j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé machin parce qu'il m'aide tout le temps.
Et bah oui, elle dit ça. Oui, je vois, mais peut-être qu'on pense à la même personne. c'est maladroit, mais elles sont « Ah bah ouais, moi je suis vraiment... » Et ensuite elle te décrit
à quel point leur mec est génial.
Il est formidable et il les aide.
Et c'est là « Ok chérie, mais bon... »
C'est une exception.
Ouais. Et puis surtout, tant mieux, mais t'es pas obligé de venir mettre du sel sur nous, nos difficultés comme ça.
Ouais, et en fait, inconsciemment, il y a toujours cet argument du not-all-man. Comme si,
ouais, exactement.
Tu vois, oui, mais il y en a des super. On est d'accord, il y en a des super. Ça. Mais la majorité, moi, je pense qu'il y a un problème systémique avec les hommes aussi.
Bien sûr,
enfin, tu vois.
Et il y a un problème. Je crois très sincèrement qu'une des façons dont s'exprime le backlash contre la liberté des femmes... c'est parfois dans nos vies privées cette situation de précarité affective, émotionnelle dans laquelle on est maintenu à la trentaine, de pas vouloir s'engager, de pas vouloir faire des enfants, tout en ayant extrêmement conscience que nous, ces années-là, elles sont un peu qui tout double. Je me demande si parfois dans la tête de certains hommes, c'est pas une façon de nous remettre à notre place. Et que le fait qu'on galère à trouver un mec ou à se maquer sérieusement, c'est pas une volonté quelque part de... Ouais, un backlash, quoi.
Grave.
Et de nous ramener au fait que, bah, ouais, bah, tu peux bien faire ce que tu veux, ma cocotte, mais sans moi, tu peux pas, tu vois. Et ben, bah, j'ai envie de dire, bah, si.
Bah, si.
Bah, si.
Ouais, et puis, en fait, t'as envie de leur dire, trop tard, les gars. C'est aussi, moi, parfois, ce que je remarque, c'est pas forcément de la méchanceté ou de la perversité, mais juste un égoïsme tellement
c'est
crasse.
C'est ça, exactement.
Qu'en
exactement.
Fait, ils se rendent pas compte. Il y a une absence de reconnaissance, des privilèges, de conditionnement. Ils le font pas, le travail, tu
non,
vois.
C'est ça.
Ils les écoutent pas, les podcasts. Ils les suivent pas, les comptes sur Insta. Ils les lisent pas, les bouquins. À part quelques exceptions. Donc, en fait, il y a un moment, tu rencontres des gars de 35 piges qui sont à moi, je veux un gamin dans 10 ans, et t'es en mode... Mais donc, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt pour la rencontre amoureuse égalitaire avec une femme de ton âge.
Bah, c'est ça.
Tu vois ?
C'est ça.
Ils se projettent forcément sur eux quand ils seront à l'endroit de leur carrière qui leur convient.
C'est ça.
Et ensuite, une nana plus jeune, parce que c'est plus pratique.
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de... Et en plus, eux aussi, ils ont une horloge biologique. Hein. Enfin, il y a quand même un truc. Eux aussi, il y a une qualité de... Ouais. Et puis même au-delà d'une certaine horloge biologique, est-ce que tu as envie d'avoir 75 piges quand ton gosse en a 20? Enfin, je sais pas. C'est fou, cette espèce de mythe dans lequel on grandit, comme quoi le temps n'a pas de prise sur les hommes. C'est pas vrai.
Ouais.
Eux aussi, ils vieillissent. Et quand faut se lever 4 fois la nuit, est-ce que t'as envie de faire ça à... Bah non, mais ils se lèvent pas en même temps. T'as envie de faire ça à 50 balais. Moi, j'ai pas envie de faire ça à 50 balais, quoi.
Ouais.
Non, c'est terrible. Enfin, oui, c'est vrai, ils sont à la ramasse, là. Vraiment, il y a un fossé qui se creuse.
Ouais.
Je pense que c'est assez impressionnant. Ils se rendent pas... Je pense que certains ne se rendent vraiment pas compte que le monde avance sans eux.
Ouais.
Et que du coup, on commence à comprendre... qu'on aura peut-être des émotions amoureuses. En tout cas, moi, j'en arrive là à me dire, j'aurai sûrement, j'espère, des émotions amoureuses, des amants, etc. Mais que les fondations de mon existence, en fait, je les construis autrement.
Ouais.
Et que du coup, ils sont plus aussi nécessaires qu'ils le croient, quoi.
Ouais, et le fossé se creuse parfois entre hommes et femmes, et parfois même entre femmes. Moi, je sens m'éloigner de certaines femmes qui performent l'hétérosexualité.
Moi, je comprends.
Tu vois, j'ai envie de dire, en fait, t'as toutes les armes pour... pas tant te soumettre, tu vois. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que je trouve que c'est quand même les luttes LGBT qui ont permis qu'on en soit là aujourd'hui et qu'on, vois, c'est les femmes lesbiennes, tu vois, qui ont été si proactives pour la PMA et puis même, tu vois, tous les couples queer qui ont réinventé l'idée du couple, de l'amour et qui permettent aussi aux femmes de s'émanciper.
Tout à fait.
Et quand tu vois que certaines femmes, en fait, hétéro continue ce stratagème de geisha pour quand même caresser dans le sens du poil parce qu'elles pensent qu'elles en ont besoin, mais parfois peuvent jouer avec leurs amis le féminisme, mais dans le privé, la femme parfaite, tu dis pas... Et en fait, c'est vrai que les éternelles concessions, leurs éternelles peurs que notre discours soit radical, moi, parfois...
J'en peux plus de ça. Ouais, je suis d'accord.
C'est fatigant. C'est fatigant, tu vois. Je veux dire, je vais pas passer ma vie à ponctuer mes phrases par « mais il y en a des biens ».
Oui, enfin, c'est ça. Mais toi, c'est pas pareil.
Toi, c'est pas pareil. Ah bah, t'as bien de la chance. Et bah, t'as une perle. Et en fait, tu le vois bien, les petits... Moi, je le vois dans mon spectacle, à quel point les femmes en couple ne cessent de rassurer les hommes, tu vois.
C'est fou.
À quel point elles font quand même, elles parlent un peu moins fort, à quel point elles les regardent, à quel point quand même elles demandent la permission. Je fais un test sociologique, parfois je dis « Ok, il y a pas mal de mecs ce soir, vous êtes venus en couple, ok, je dis « Applaudissez ceux qui ont pris la place ». Non, c'est toujours les femmes qui prennent les places. Vrai. En fait, elles organisent la sortie, mais il faut quand même que lui soit content. Et parfois, il y en a certains qui assument. Hier soir, il y a un spectateur qui a assumé, qui a dit très fort « Elle m'a traîné ici, elle m'a forcé ».
Oh là là.
Je l'ai fait sortir.
Tu l'as fait sortir, j'adore.
À la fin de la représentation, parce qu'il avait trop fait de bruit.
C'est dingue, mais il y a certains hommes qui vraiment ne supportent pas que des femmes travaillent, soient humoristes, soient drôles, soient dans les spotlights et la vedette autre que pour être leur... que pour être, je sais pas, des jeunes poupées qui puissent être manipulables, quoi. Mmh. Et je crois vraiment qu'il y en a certains qui... Parce que c'est ça, moi, je pense que ce qui s'est passé hier, je pense qu'ils supportent pas.
Supportez pas.
Que tu sois plus drôle que lui ou que tu sois... D'ailleurs, tu vois, c'est horrible sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de me... Je comprends pas qui sont ces gens, mais... Dès qu'il y a des meufs qui font des vidéos d'humour, il y a toujours les 40, 50, 200 mascus qui arrivent en disant les femmes et l'humour, c'est pas possible.
Ouais, t'es pas marrante.
T'es pas marrante. C'est incroyable, quoi.
Ah, c'est... Oui, oui, ça
l'humour,
dérange.
C'est vraiment. Ils supportent pas, quoi.
Ah, c'est un point qui trigger énormément. Les mascus, que les femmes osent faire des blagues et osent aussi parler de sexualité, de cul librement. Et en même temps, il y en a qui fantasment. Alors, c'est bizarre, tu vois. Il y en a aussi qui fantasment sur les meufs drôles, mais un peu tapis dans l'ombre. Moi, j'ai été souvent, finalement, astreinte dans ma vingtaine, malgré moi, à la maîtresse, tu vois, à deux reprises, et à pas réussi à me retrouver. Et je me suis demandé comment ça se fait que j'ai pas été envisagée comme la copine officielle, la principale, tu vois. Ouais. Et alors après, en plus, certaines personnes vont te sermonner, te dire c'est toi qui répètes tes schémas. Tu dis non, non, il y a un problème dans le système aussi.
Tout à fait.
C'est pas que nous qui devons faire des stages de développement personnel pour savoir où sont nos erreurs.
Exactement, exactement. Moi, je... Enfin... Quand j'ai commencé à être en thérapie ou à travailler sur moi, j'avais cette conviction dans le fond de ma tête en me disant « Bon, bah, c'est bien, je vais réparer ce qui ne va pas chez moi, puis après, je vais réussir à me caser. » Bon, alors, ça m'a fait du bien de faire une thérapie. Et c'est vrai, il y a des choses que j'ai répétées, etc. Mais c'est un mensonge aussi qu'on fait aux femmes célibataires et qui sous-entend l'idée que si on n'est pas maquée, c'est parce qu'il y a... Quelque part, on le cherche, ou quelque part, on fait des erreurs. Et c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est que le monde a changé, c'est que plein de choses. Mais ouais, c'est ça. Enfin, on peut passer 20 ans en thérapie. Puis surtout, il faut voir les gens maqués autour de nous. Vous n'allez pas me faire croire que c'est ceux qui sont.
Qu'ils n'ont pas de problème. Ouais.
Que c'est ceux qui n'ont que des types d'attachements sécures, qui gèrent leurs émotions avec dextérité, qu'ils n'ont pas aucun problème de. Enfin, il y en a, franchement, ils ont une maturité émotionnelle de gamins de 6 ans.
Grave.
Encore plus, les gens maqués. Parfois, je suis là, waouh, mais tenez-vous, quoi.
Ouais.
Tenez-vous. Moi, je vois ça. Enfin, je vais être très jugeante. C'est des gens qui vont pas m'aimer, mais tant pis. Moi, je vois parfois certaines personnes. Qui appellent leur mec ou leur meuf dès qu'ils ont la moindre contrariété de l'existence. Je dis, mais t'as 5 ans et demi ou quoi? Enfin, c'est ça quand même aussi la réalité d'une vie de célibat, c'est qu'on est obligé de gérer quand même.
Seul.
De tenir la baraque. Alors on a des amis, de la famille, etc. Mais moi je peux pas faire ouin ouin toutes les 5 minutes à mon sauveur, quoi. Et donc j'aimerais bien qu'on regarde les choses dans l'autre sens. Moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent dans des relations misérables parce que eux n'ont pas la maturité émotionnelle de gérer leur vie.
Ouais, la force.
Le
courage, la détermination.
C'est ça.
L'univers intérieur.
Exactement. Oui, c'est bien sûr, t'as raison, l'univers intérieur, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et je pense qu'on est au début de découvrir à quel point... Je pense que les personnes qui ont une carrière comme toi, dans la lumière, avec beaucoup de succès...
Toi aussi, journaliste aussi à succès, t'as été beaucoup... T'as été très médiatisée. Quand tu t'es attaquée à Tinder, ça a fait tout un...
Oui, ça a fait tout
tout un truc, hein.
À quel point... Bah, je me souviens, moi, par exemple, j'ai été invitée chez Quotidien pour mon bouquin sur Tinder. Donc, c'était aussi ton premier livre, c'était ma première grosse télé. C'était quand même un truc... Enfin, un événement incroyable.
Ouais.
Et donc, j'étais au maquillage, machin, j'avais le cœur... J'avais trop le trac. Et je vois sur mon téléphone... J'avais 15 messages du mec dont j'étais en train de me séparer. Espèce de grosse pute, tu vas allumer tout le monde à la télé, machin, nanani, nanana. Et donc je pleure et la maquilleuse m'engueule. Et après, j'essaie de dire j'oublie, j'y pense pas. Et tu sais, tu dois marcher un peu avant d'y aller là. Et je me disais, putain, il m'aura gâché ce truc-là. Et je me dis, maintenant, il faut que t'oublies l'insulte, il faut que t'oublies la violence.
Ouais.
Et on m'enlèvera pas de l'idée que c'est ça le machisme.
Ouais.
C'est quand tu vas faire un truc hyper important pour ta carrière, pour ton livre. Quand j'y repense, j'ai les larmes parce qu'il m'a volé ce moment, quoi. Et que c'est putain, enfin, je sais pas, t'as 30 piges, c'est ta première téloge, c'est ton premier livre. Tout ce que tu devrais recevoir, c'est des encouragements, même si t'es en train de te séparer, tu vois. Et là, et qu'est-ce que tu te fais toujours traiter de pute? Au final, on en revient toujours à ça. Parce que tu vois, tu vas ton livre, tu parles de Tinder, tu vas forcément allumer la terre entière. Et franchement, c'est ça la réalité des relations hétéro aussi aujourd'hui.
Ouais, c'est clair.
C'est ça, tu vois. Enfin,
bien sûr, qu'il y a beaucoup de jalousie et qu'on en parle
bien
peu.
Sûr.
Qu'il y a beaucoup de jalousie.
De rivalité, de
bien sûr.
C'est ça, de violence, bien sûr.
Ouais, ouais, c'est clair, et qu'on se sent... et que nous, en plus, on a ce côté coupable et sacrificiel qui fait qu'au final, il faut... Alors, l'énergie qu'on va déployer pour encourager, mettre l'autre dans la lumière, et la capacité qu'on a à admirer sincèrement, en fait, à se réjouir et au contraire, à aimer plus. Et on est souvent même attiré par les hommes qu'on trouve drôles, qu'on trouve brillants,
ouais,
qui parlent bien, qui réussissent. Je veux dire, les femmes ne sont pas opportunistes ou michetos, mais les femmes aiment les hommes qui brillent. On n'aime pas se réjouir de quelqu'un de terne, de caché, de complexé, qui manque de confiance. Alors, c'est vrai que ça nous attire moins, et l'inverse n'est pas valable, en fait, hélas, ouais, souvent. Mmh. Et ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que derrière le parcours de PMA hors couple, il y a quelque chose de pragmatique, il y a une décision. Mais moi, j'y vois aussi quelque chose de profondément romantique, parce qu'en fait, je pense qu'aussi, c'est souvent peut-être... des femmes qui aiment trop, et que en fait, finalement, ce qu'il y a de plus pragmatique, ce qui demande le plus de concessions et de froideur, c'est le couple, en fait. Et quand on est incapable, parfois, en fait, d'aimer peu, d'aimer à moitié, de pas voir certaines choses, et bah, d'un coup, ça reste une solution si on a aussi envie de devenir mère. Moi, c'est pas que j'aime pas les hommes, c'est que peut-être je les aime trop.
Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai parfois le sentiment d'être trop sensible ou trop romantique pour le couple et
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tout ce qui demande comme parfois concession, trahison, mensonge, mais même, je parle pas des gens qui se font des choses horribles, hein, mais de tous ces petits arrangements un peu mesquins. Puis de tout ce que, enfin ouais, tout ce que ça veut dire, ouais, comme tu dis, de l'amour un peu étrange, médiocre du quotidien. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est peut-être une vision un peu trop naïve, mais je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est très dur aussi de vivre à deux, le huis clos de la maison, de l'appartement, des émotions de l'autre qui parfois explosent, et puis il faudrait savoir gérer. Je trouve ça difficile aussi. Enfin, moi, je trouve ça difficile aussi, sincèrement.
T'es heureuse aujourd'hui de vivre dans ton appart, là? J'ai vu, tu viens de déménager.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis en plein dans les cartons, là, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Mais non, moi, je suis contente d'avoir aussi mon chez-moi qui n'est que moi, et donc plein de tous mes souvenirs, etc. Donc, je crois que, sincèrement, je revivrais pas avec quelqu'un, d'autant plus maintenant, là. Enfin, il faudrait l'imposer aux enfants et tout. Vraiment, j'en ai pas envie. Je pense que c'est pas fait pour moi. Et oui, la PMA, enfin, faire une famille autrement, moi, au début, je l'envisageais comme un plan B, hein, je vais être sincère. Mais plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très fière, en fait, de faire les choses comme ça. Et très heureuse, même si parfois c'est dur, hein, je vais pas mentir, la grossesse. Moi, j'ai pas une grossesse hyper facile et tout. Parfois, je suis là, oh là là. Faut pas non plus romantiser à l'extrême. C'est pas évident, mais après, c'est évident pour personne. Hein, la grossesse, les petits bébés, c'est dur, hein, c'est toujours dur. Mais voilà, ce sont d'autres chemins qu'on peut inventer, qui peuvent être joyeux, qui peuvent être fun. J'avais fait un post où je racontais que. Quand tu fais des inséminations, pour augmenter tes chances de fertilité, il faut avoir des orgasmes.
Ouais.
Parce que la contraction des muscles, ça aide les spermatozoïdes à remonter. Enfin bref, la nature est bien faite à ce niveau-là. Et donc je me disais, bon, puis j'avais envie donc le jour de ton insémination, faut te masturber, quoi.
Oui.
Et je me disais, bon, je vais un peu épicer le truc. Et j'avais demandé à des anciens amants, alors pas des mecs avec qui j'avais envisagé de faire des bébés, parce que ça aurait été compliqué, mais à des anciens amants qui sont restés un peu des amis, de m'envoyer des vocaux un peu chauds pour ce jour-là. Et du coup, c'était hyper beau, parce que j'en ai reçu plein, et donc j'étais dans un espèce de truc où... voilà, où du coup, je recevais tous mes messages. Ce jour-là, j'arrêtais pas d'avoir des orgasmes. Enfin, c'était assez étrange.
C'est beau.
Mais donc, je me voyais pas aller coucher avec un mec le jour où je faisais ça. Enfin, c'était ça, je trouvais ça trop compliqué. Enfin, trop tout mélangé, tu vois.
Ouais,
mais,
ouais, je comprends.
Donc, je voulais me les donner moi, mais je trouvais ça chouette de recevoir ces messages. Et c'était beau, c'était émouvant. C'était la vie, quoi.
Ouais.
Et en fait, la vie, elle trouve d'autres chemins.
Ouais.
Et l'amour aussi. Et je pense que quand on s'autorise à regarder ailleurs que les chemins tout tracés, on voit aussi la beauté qu'il y a dans les autres chemins.
Ouais, dans la marge.
Dans la marge, exactement.
À quel point, au final, c'est une richesse. Et c'est vrai que les gens veulent catégoriser. Moi, quand je commence à... J'ai pris rendez-vous pour mon
coach. Ah, super.
Mais rendez-vous cochin, ouais. C'est dans un an. Pour
ouais,
le parcours PM,
c'est ça. Hein,
dans
ouais.
un an, hélas. Donc, je continue en parallèle le parcours de congélation de vos sites. Ouais. Mais j'aimerais que ça soit plus rapide. Mais il faut que je rappelle au début de là, aujourd'hui, demain, au début de moi pour pouvoir avancer éventuellement le rendez-vous. Et donc, quand j'en parle un petit peu précautionneusement, on me dit « Pourquoi t'es pas lesbienne ? Pourquoi tu veux pas être lesbienne ?»
Oui, c'est dingue.
Toi aussi, t'as eu ça ?
Bah, je vois ce que tu veux dire. On dit « Mais pourquoi tu te mets pas avec une meuf ?» Ouais, bah, franchement...
C'est
ouais.
pas mon... C'est, je suis... Ah, Marina Rollman, elle disait dans une chronique récemment sur Inter, elle dit « Androphile
ouais. ».
Que c'est... J'aime bien, parce que c'est mieux qu'hétéro.
Ouais, c'est vrai, c'est
parce
joli.
Parce qu'hétéro, on en a marre.
Ouais, moi, c'est clair,
plus.
C'est clair.
Mais androphile, ça veut dire qu'on est aussi avec les hommes qui aiment les hommes, en fait. C'est juste qu'on est attiré, a priori, par les hommes.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et puis, bah, c'est pas... En plus, je trouve qu'il y a un côté un peu méprisant pour les lesbiennes ouais. de dire bah, si ça marche pas avec les mecs, t'as toujours l'option ouais. d'aller avec les meufs. Bah, enfin, non, c'est pas.
C'est pas comme ça
que ça marche, non.
Ouais.
Et puis, c'est toujours de remettre la faute sur nous. C'est
oui.
encore nous qui choisissons mal.
Oui, qui avons pas compris.
Qui avons pas compris. Et c'est pas possible que la seule solution à comment s'extraire de toute cette. Enfin, comment faire avancer les choses, je trouve, ce soit encore de dire que les meufs couchent avec les mauvaises personnes.
Ouais.
C'est pas possible. Enfin, stop, il y a un moment, c'est peut-être aussi aux autres personnes de se remettre en question, quoi.
Grave.
C'est...
Est-ce que je peux te demander si t'en as parlé à tes parents ?
J'en ai parlé à ma mère. Mon père est décédé il y a 5 ans. Puis j'en ai parlé à ma mère dès le début, ouais.
Elle a été soutenante.
Début, ouais, c'était très important pour moi. Je pense que ça doit être dur quand t'es pas soutenue par ta maman dans ce genre de truc. Parce que c'est quand même
moi,
un truc...
Moi, la mère me soutient aussi.
Elle te soutient aussi, ouais. Non, c'était vraiment... ouais, elle a été... C'est marrant parce que la famille, elle nous surprend. Ma mère, sur ces questions-là, elle était plutôt un peu réa, comme « C'est quoi toutes ces histoires de machin PMA, nanani là, ça va être la marchandisation des corps, la GPA. »
Ouais, exactement. Ouais. Oui, ça, je l'ai entendu. Maintenant, on pourra choisir les yeux, machins.
Et puis quand
ça va devenir comme les États-Unis.
Et puis quand c'était moi, je dis « Voilà, j'ai peur de ne pas pouvoir être mère. Mes résultats de test, ils ne sont pas bons. » Je dis « Je vais sans doute faire ça. » Elle m'a dit « Mais fonce, mais t'as raison. » Et tout. Donc ça l'a fait évoluer, ça l'a fait évoluer sur ces questions. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur les, c'est ma grossesse, la façon dont je suis tombée enceinte, la façon dont ma famille commence, ça ressemble à rien de ce que j'ai vu moi dans les films, dans les livres, dans la culture populaire autour de moi. Donc, mais c'est pas moins bien en fait.
Ouais.
C'est ça que je voudrais expliquer, dire aux gens. Du coup, les prénoms, bah moi j'en ai parlé avec ma nièce. c'était notre petit secret. Les échos, moi j'y vais avec des amis. C'est vrai que c'est pas le huis clos amoureux de ah oh, mon amour regarde notre bébé c'est magnifique. Je vis pas ça. Mais l'autre jour j'étais dans la salle d'attente pour une écho, j'étais avec mon meilleur pote et on était morts de rire. Et vraiment parce que on s'est enfin et je voyais les gens qui me regardaient, je pense qu'on leur faisait pas pitié hein. On n'est pas moins bien que les autres, on n'est pas bien sûr il y a des coups durs hein, je vais pas mentir, moi comme mes 3 premiers mois de grossesse j'ai vomi 15 fois par jour la nuit, parfois j'avais du mal à me relever de mon carrelage de ma salle de bain. Bien sûr, ça m'a traversé l'esprit dans ces moments-là. Je me suis dit, j'aimerais bien là qu'il y ait quelqu'un qui m'amène de l'eau et m'aide à me relever de mon carrelage, sincèrement. Mais tout n'est pas, enfin, ce n'est pas que misère et désolation et solitude.
Non.
Pas du tout. Il y a aussi des grands moments de joie.
Ouais.
Il y a aussi des je crois aussi qu'on vit les choses de manière moins isolée, moins dans le huis clos du couple. Enfin voilà quoi. C'est la vie, c'est la. Ça, je sais pas comment c'est là.
Puis tu peux te dévouer tout à l'amour de ce projet. Combien
ouais,
de femmes
ça.
Sont aussi tiraillées entre l'amour qu'elles ont pour les êtres qui vont grandir et l'amour qu'elles doivent toujours témoigner à leur conjoint. Et
tout
ensuite, quand les enfants naissent, il faut pas que l'homme se sente délaissé.
Ah ouais, laisse
tu vois, tomber. Parce que sinon, il va se sentir exclu.
Ah ouais.
Et donc, elles se disent.
Les mecs qui mettent la pression pour refaire l'amour au bout de genre 2 mois. Enfin, c'est bon, il y a un truc qui vient de me passer.
C'est ça, la libido, c'est de leur faute.
Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Après, j'essaie de m'astreindre à pour assumer mes choix, ne pas en passer par dénier ceux des autres.
Bien sûr.
Donc, mais c'est sûr. Moi, je suis heureuse de bah, de me dire qu'au début, les années avec, avec mes petits anges, bah, voilà, je vais être focus sur eux, puis on va être tous les trois, tous les quatre avec mon petit chien. Puis on va, je sais pas, on va être tranquille, on va être chez nous. Ouais.
Et puis comme tu le dis sur Insta, tu ne te fermes pas l'idée de la rencontre.
Non, ouais. non. Très sincèrement, ce que je me suis dit, c'est qu'on a toute la vie, en fait, pour tomber amoureuse. Mmh. Pour faire des enfants, non. Donc à partir de là, bah voilà, faut inventer d'autres façons de faire.
Et voir les bons psys, parce que j'imagine que moi, le mien, je pense que ça va être très compliqué de... J'en ai pas encore parlé à mon psy, je le vois lundi prochain, mais tu sais, c'est vraiment l'école, Lacan, Freud. Et je crois qu'il va pas s'empêcher de me sortir un peu un truc, de mettre en parallèle la relation à mon père.
Ah ouais.
Tu vois, et de dire, en fait, là, je tue littéralement le père.
Mmh, ouais, tu vois, c'est ça. Ouais.
En plus, c'était un peu le sujet de mon bouquin, tu vois. Donc, mais je savais pas en écrivant mon livre qu'en fait, ça s'inscrirait comme ça. Et c'est pas vrai, en fait. On peut pas tout mettre de la psychanalyse à toutes les sauces non plus, quoi. C'est comme à un moment, j'avais reçu une autrice qui avait écrit sur son fils autiste, Mine. Et qui disait à quel point elle avait souffert de toutes ces théories psychanalytiques bullshit, comme quoi c'était la faute de la mère, si l'enfant était autiste, etc. Et j'ai peur que ça déboule aussi, tu vois.
Ah oui, je pense, hein, il faut s'entourer de praticiens progressistes.
Ouais.
Après, moi, j'avais posé vraiment la question à ma psy en me disant, est-ce que, voilà, il y a vraiment des dangers dans d'élever un enfant seul? Enfin, est-ce que vraiment, il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention? Et elle m'avait dit... que ce qui était important en psychologie, c'est que l'enfant sente, enfin que le père, il joue un rôle, enfin le père ou le deuxième partenaire, un rôle un peu de tiers séparateur. Et donc il faut que l'enfant sente que tu n'as pas que lui ou elle dans la vie. Parce que sinon c'est oppressant aussi pour eux, très oppressant pour eux. Mais pour ça, tu n'as pas besoin d'être maqué. Mon enfant, mes enfants, ils vont sentir que j'ai un travail, des amis. Enfin, c'est pas ils sont pas toute ma vie.
Oui, que t'as une vie.
Que j'ai une vie vie de femme, voilà, une vie de femme, exactement. Ouais. Et puis une vie, voilà, que j'ai aussi. Exactement. Puis même peut-être peut-être qu'ils rendent des mecs ou des amis, des amants. Enfin bref, une vie quoi, ma vie. Ouais.
Ouais, c'est intéressant.
Il y a pas forcément besoin d'être dans un couple à l'ancienne quoi pour. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Et c'est ça auquel il faut être vigilant, mais...
Oui, ça c'est la grande théorie de mon père.
Ouais.
Il dit, les pères sont là pour faire rempart à l'amour des mères.
Ouais, ça fait peur comme théorie.
Ouais. Oui, puis ensuite il va plus loin, il développe des trucs. Ouais. Et puis ensuite il mélange ça avec de la Torah et du Freud et du Vachat.
Mais la psychanalyse, je pense que c'est... Enfin... Je trouve que c'est une discipline remarquable parce que ça nous a permis de découvrir l'inconscient. Mais sur les questions de société, de genre, de mœurs, c'est vraiment... Il faut qu'ils actualisent, quoi. Franchement, c'est chaud, quoi.
Ouais. C'est clair qu'il faut actualiser la page.
Les loulous, là, faut bosser, quoi. Faut retourner écrire des textes et puis arrêter de vous baser sur les trucs qui ont été écrits au 19e siècle. Enfin, je sais pas. Ça me dépasse un peu que ce soit... C'était si révolutionnaire et c'est devenu... les réactionnaires d'aujourd'hui, quoi.
C'est clair.
C'est assez flippant, je trouve.
Ouais, il faut des psychanalystes féministes.
C'est ça, exactement.
Est-ce que toi, avec le sperme que tu as choisi, il est possible que tes enfants un jour découvrent...
Ah oui, moi j'ai choisi un donneur ouvert. C'était très important pour moi d'avoir un peu d'infos sur lui et que les enfants, mes enfants, s'ils le souhaitent, à leur majorité, puissent entrer en contact avec lui. Alors après... Il faut faire attention parce que ça veut dire que quand il a fait son don, cet homme, il a accepté que plus tard, peut-être, il soit contacté par des enfants. Mais bon, si mes enfants le contactent, ce sera peut-être dans 18 ans. Ce mec, il sera peut-être plus de ce monde. Il aura peut-être sa vie, sa famille, plus du tout envie de répondre aux enfants issus de son don. Donc, c'est une possibilité, mais c'est pas une certitude. Mais moi, je voulais un peu avoir quelques infos. Je voulais pas que ce soit le flou complet, total, sur ce qu'elle est dans mon utérus, quoi. Donc, avec la clinique danoise, tu peux un peu... c'est un business, hein, donc plus tu payes, plus t'as des infos. Ouais. Moi, j'ai payé le minimum, donc je savais le métier, la couleur des cheveux, des yeux. Le premier, parce que j'ai essayé plusieurs fois l'insémination... Donc le premier, j'avais fait vraiment littéralement plouf pouf, j'étais là, ce sera toi, parce que je savais pas sur quel critère choisir. Et j'étais tombée sur un rouquin, et je trouvais ça sympa d'avoir un mec rouquin, c'est ce que je... Voilà. Et le deuxième, je l'avais choisi parce que, bon, ça fait un peu midinette, parce qu'il était musicien. Et c'est le genre de mec qui m'aurait plu aussi, quoi. Enfin, et puis voilà. Je pense que c'est bien. Enfin, moi, j'avais envie de savoir un peu.
Ouais.
J'avais envie de savoir un peu. Je trouve c'est important. Et puis même, j'aimais bien le fait que la clinique au Danemark, si tu peux aller la visiter avec les enfants, et ils vont expliquer, voilà, c'est là qu'on a stocké les petites graines, machin. Enfin, c'est pas le grand point d'interrogation, quoi.
Et donc, tu avais choisi le Danemark plutôt que l'Espagne ou la Belgique pour...
Parce que justement, en Espagne et en Belgique, ce sont des donneurs anonymes, selon les politiques, en fait, les législations. Mm. Quand tu cherches, quand tu es dans le monde de la PMA, tu deviens spécialiste des législations européennes. Et donc, ouais, le Danemark, en plus, ils ont beaucoup d'expérience sur ces questions. La clinique, ils te donnent accès à plein de ressources pour comment parler des donneurs aux enfants, basés sur des... articles scientifiques, etc. Enfin, on te laisse pas complètement dans le brouillard.
Mais on est d'accord que la France, à l'échelle européenne et mondiale, on est complètement à la ramasse.
Bah oui, on vient d'autoriser, par exemple, la congélation d'ovocytes. Ouais. C'est ouf, quoi.
C'est fou. Mmh. T'expliques ça
c'est
comment,
ouf que
toi
comme pourquoi ils voulaient ouais. Mais c'est dingue que ça a été interdit
ouais.
Juste pour nous forcer à faire ouais. Enfin c'est dingue.
Bah c'est la France réac quand
bah,
même,
ouais, quand même hein.
Hyper qui est bien bien présente ou...
Oui, on est quand même on est quand même bien dans la ramasse sur ces questions.
Ouais ouais, mais aussi en fait sur les questions d'éthique, je sais pas si c'est aussi un fond de France très catho ou tu
je
vois
sais pas, ouais.
Je sais pas si c'est ça parce qu'on est aussi en retard sur les questions de mourir dans la dignité tu
tout
vois
à fait,
qui sont ouais. Bah, t'es là mais il serait temps que vraiment aussi ça ouais. C'est notre corps aussi ça
tout
aussi on puisse le
ouais,
choisir
complètement je me l'explique pas tant que ça je sais pas comment parce que ouais je pense que je repense à la manif pour tous c'est ouais. La violence des
ouais.
Débats. T'as raison, il reste quand même une frange très, très catholique.
Hyper intégriste, quoi.
Ouais, complètement, très conservatrice.
Ouais, ou même aussi tout simplement des élites et des savants et des personnalités qui sont ni de droite, ni d'extrême droite, ni religieuses, mais qui sont juste des hommes qui n'ont rien à branler des femmes, quoi.
Ouais. Oui, je pense. Je pense qu'on souffre encore peut-être de l'ancienne distinction des lumières entre le corps et l'âme, entre ce qui est noble et ce qui n'est pas noble, et tout ce qui a rapport un peu, voilà, au droit reproductif, au droit du corps à être maître de son corps. C'est peut-être encore considéré comme des sujets un peu... je sais pas, pas noble, quoi.
Ouais, t'as raison. Et puis même, parfois, c'est comme s'il y avait une voix réactionnaire venant de la gauche qui dit « on va pas commencer à tout marchander ».
Oui, tout à fait.
Voilà, comme s'il voit le grand ennemi américain, le grand ennemi tout capitaliste, le grand ennemi du « j'achète la nature ». Et puis aussi, en France, t'as des voix, t'as des courants très... anti-vax, bizarre, chelou, ultra-naturel, et qui sont tellement dans la... Tu vois, tous les discours transphobes aussi.
Tout à
finalement,
fait.
C'est pas si loin des discours réac sur les femmes qui veulent faire des PMA hors couple, quoi.
Complètement.
C'est, ah ouais, vous allez transformer la nature.
Oui, c'est ça.
C'est ces mêmes voix. Et ça, ces voix, elles viennent de plein d'endroits très différents, quoi.
C'est
elles
vrai.
Peuvent venir du bobo montreuillois. Hein.
Tout à fait. Mais je suis assez frappée, hein, même autour de moi, des personnes... des jugements ou de l'hostilité que parfois je me prends où on me dit tu manipules la nature ou c'est pas naturel ou enfin des choses comme ça. J'ai envie de dire, mais enfin c'est fou.
Ça s'appelle l'évolution, hein.
Ouais,
c'est pas
voilà.
Non plus naturel de prendre la pilule.
Non,
vous êtes
exactement.
Bien content,
et t'es bien content, c'est pas
bah
naturel
ouais.
D'avorter, pourtant
bah
c'est
ouais.
Un droit essentiel. Nos conquêtes, non, elles sont pas forcément naturelles.
Bah
non,
oui.
C'est vrai, c'est pas un argument en fait la
c'est
nature.
Pas un argument.
La loi de la jungle, c'est pas enviable
mais
quoi.
Bien sûr, évidemment.
Ouais, c'est assez, ouais, assez étonnant. Mais je pense que c'est des sujets qui relèvent tellement de l'intime, et je pense que puis avec une construction tellement fantasmée qu'on avait quand on était petit,
ouais.
De ce que c'est de la famille qu'on s'est imaginé qu'on a eu. Que ça demande un peu de travail d'être capable de la déconstruire.
Mmh.
Que ça demande peut-être d'être confronté soi-même ou que des proches y soient confrontés pour comprendre un peu la brutalité de tout ça. Sinon, on peut être toujours tenté de vouloir faire rentrer les choses dans des cases un peu idéalisées, je pense.
Ouais, 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 c'est sûr. Et t'as toujours aussi des voies. Les obstacles, c'est oui, voilà, c'est ça, ça va être comme les États-Unis, ça va être marchandé. Tu trouveras jamais un mec. Après, ensuite, c'est trop tard.
Ouais, c'est
si
ça.
Renoncé, tu trouveras ensuite des filles qui disent « Ah ouais, mais par contre, si tu rencontres un gars, lui dis pas. Hein. » Enfin,
c'est
tu vois.
Si tu... On t'a dit ça ?
Ouais,
ah
on m'a dit ça, ouais.
Ah ouais.
On m'a dit ça. On m'a dit « Ah bon, mais tu continues à essayer de sortir ? » Oh, si tu rencontres un mec, tu lui dis pas. Hein.
Ah, c'est fou.
Ouais, on m'a dit ça.
Ouais. Puis toujours, si tu rencontres un mec, donc il faut toujours
ouais.
Penser à plaire à un hypothétique ouais. mec qui est même pas encore là. Il faut déjà se façonner en imaginant ses attentes.
Ouais.
Enough, quoi.
Enough.
Ouais, stop.
Enough is enough.
Ouais.
Enough is enough, j'avais vu une vidéo hyper intéressante, je sais pas, que le média a passé sur Instagram ou quoi, qui disait que ce qu'on catégorise comme le coup de foudre ou les papillons dans le ventre, en fait, c'est une crise d'angoisse.
Mmh. Oui, c'est ouf, ça.
C'est ouf, hein ?
Ouais, à quel point on valorise les...
À quel point, en fait, c'est pas ça, forcément, en fait, ce Exactement. Qu'on cherche, qu'on veut, et que ça, tous les jours, c'est invivable.
Ouais, c'est ça.
Oui, puis ensuite, il y en a des autres qui te disent, bah, pourquoi tu veux à tout... Des voix féministes réactionnaires. C'est un droit de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir un enfant?
Ah, c'est fou. Hein. Ouais. Ouais, c'est fou.
Mais bon, il faut se blinder. Tu dis, bah oui, mais je respecte complètement le droit
Bien des sûr, femmes. Bien sûr, c'est pas parce que moi j'en veux que ouais. ça force les child free à en avoir, quoi.
Oui, oui. Puis cet ouais. argument aussi, parfois, un peu de, genre de d'une extrême gauche chelou, en mode qu'on copierait Google, tu sais, parce que c'est ce qu'expliquait aussi Myriam. En fait, à Google, ils proposent aux femmes très tôt dans l'entreprise de congeler les ovocytes. Et oui, c'est lié à la carrière.
Bien sûr.
Bah, ça pose des questions. Après, c'est un autre modèle, c'est un autre système. Bien sûr, chez eux, c'est un business. Et après, ils te disent, mais alors, les mères porteuses. Et ils te demandent de parler de choses que toi, qui ne sont pas, qui ne te regardent pas.
À partir du moment où tu rentres dans un parcours
perma, ouais, on imagine. Toutes les questions éthiques possibles et inimaginables.
C'est ça, que t'es devenue genre doctorante en bioéthique.
Ouais, exactement.
Et que t'es censée avoir un avis sur absolument tout. Ouais. Alors, la GPA en Floride, machin, c'est différent que dans l'état de New York. Enfin, genre, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est dingue. Non, c'est dingue. Non, mais c'est vrai que... Bah, c'est aussi une claque, je comprends ce qu'ont vécu, ce que vivent les personnes LGBT. Parce que moi, j'étais plus ou moins dans la norme, être célibataire, mais hétéro, blanche et tout. Et là, je me retrouve un peu, pour la première fois de ma vie, être dans un chemin un peu plus marginal.
Ouais.
Et donc, je comprends, ça s'appelle la charge narrative, je me souviens. C'est Amandine Gay qui avait théorisé ça dans son bouquin « Une poupée en chocolat ». Et waouh, c'est lourdingue, c'est vrai, la charge narrative, c'est lourdingue. De devoir te justifier, t'expliquer sans cesse, et puis te prendre les petites phrases, parfois, qui sont un peu comme des petits couteaux, de coups de couteau, tu sais pas d'où ça vient.
Ouais,
genre, bon courage pour trouver un mec après ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ou moi, parfois, on me demande, mais genre, de devoir me justifier sur genre, comment je vais organiser mes 3 prochaines années. Je suis là, mais foutez-moi la paix, en fait, déjà. Genre,
ça te regarde pas.
Ouais, genre, mais alors, comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire quand il sera malade? Mais comment tu vas faire quand la crèche sera fermée? Et comment tu vas faire partir en vacances? Je suis là,
on verra.
Déjà, moi, j'ai réfléchi à tout ça. Ouais. C'est déjà suffisamment relou. Je suis pas obligée de te faire un rapport détaillé à toi que je connais depuis 20 minutes.
Et puis, en fait, ça se trouve, ce sera beaucoup plus simple et plus facile.
Oui, bien sûr.
Parce que les gens, il faut dire, autour de moi, j'ai des couples qui se séparent. Putain, l'organisation.
Bah ouais.
De partager la garde, de se battre, de payer, de faire une médiation, de se faire gueuler dessus, de prendre un avocat.
Ah non, c'est terrible.
Tu vois, je veux dire, de flipper, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut-être... Alors, c'est les scénarios les plus catastrophiques, mais ça arrive quand même, qui monte ton enfant contre toi. Je veux dire, c'est pas... Oui, la petite famille parfaite, ça existe, il y en a certainement, et tant mieux pour eux, mais c'est pas... La majorité.
C'est pas la majorité. Voilà, c'est pas la majorité. Et nous, on est là, on existe et on est. Je suis sûre que voilà, on peut fournir des cadres de vie qui soient tout aussi épanouissants, drôles, joyeux pour des enfants que n'importe qui d'autre.
Et aussi, on peut s'apporter de la tendresse, du soutien, pas de l'indifférence, de la froideuse ou une curiosité un petit peu malsaine, mais juste déjà de l'admiration, quoi. De l'admiration. Moi, c'est vrai que les gens qui disent... Oh, tu sais, il y a des humoristes qui font des blagues en disant « Les gays, tout ça, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. » Non, tu peux pas. C'est pas vrai. Moi, je m'en fous pas. J'ai de la tendresse. Enfin, tu peux pas t'en foutre quand tu sais le combat que sont les vies en marge. Enfin, avec un élément clé de différence. Tu vois,
t'as raison.
C'est comme les gens qui disent « Oh, moi, de toute façon, les couleurs, les machins, les musulmans,
ouais,
et tout, les machins,
ouais, ça. »
Non.
Ah non, tu peux pas.
Tu peux pas, tu en peux fait. Pas, ouais. Tu dois avoir une autre relation, un autre rapport, un élément de compréhension supplémentaire, quoi.
Complètement. Non, complètement, t'as raison. On peut pas s'en foutre. Enfin, s'en foutre, c'est déjà, en fait, bénéficier de privilèges, quoi.
Ouais.
Ça veut dire que tu te remets pas en question, tu fais rien. Enfin, oui, ça veut dire c'est rester dans sa position de dominant, quoi.
Et donc là, est-ce que tu penses sincèrement à un livre ?
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai trop envie d'écrire sur mon parcours. J'ai très envie de partager ce que j'ai vécu. J'espère donner de l'espoir à d'autres femmes dans ma situation, enfin qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais. Après, j'ai peur un peu de ce que ça va être, de le porter, ce livre. parce que c'est violent parfois les critiques des gens, et puis il faut les assumer. Et puis là, en plus, ça va être sur moi et sur mes enfants, mes petits anges que personne n'a le droit de critiquer. Donc ça, ouais, je l'appréhende un petit peu. Mais bien sûr, j'ai trop envie d'en parler, puis d'en parler d'un point de vue féministe et de... Puis d'essayer de débroussailler le chemin, quoi.
Ouais. Bah, tu seras accompagnée par un éditeur ou une éditrice, oui. L'attachée de presse. Peut-être que tu feras pas tous les interviews, les journalistes connards ou malveillants. Peut-être que c'est pas la peine forcément de s'y confronter.
Exactement. Ouais, faudra peut-être faire un peu de sélection, ouais. C'est ça. Ouais.
Mais ça se trouve, ce livre donnerait même lieu à un film. Parce que ouais. Tu disais, tu vois, que c'est vrai qu'on a grandi avec, pas avec ces images-là.
Ouais, c'est ça.
Et moi, j'ai envie de les voir, de voir moi, ce film en
images. Les premières fois où j'ai vu des images comme ça, c'était dans la saison 3 de Master of None.
Ouais.
Il y en a une, elle fait une des deux, elle fait un enfant solo.
Ouais.
Et donc tu la vois se faire les piqûres dans le bide, tu la vois être triste quand ça marche pas, tu la vois être contente quand ça marche. Ça fait du bien de le voir.
Ouais.
C'est fou, quoi. Ouais. Et de le voir... ouais, il faut qu'on a tellement besoin de le voir.
Vraiment. Mm. Toi, il y a des images, des personnalités, justement, des personnes qui t'ont inspirée, en fait. Mais pas forcément que pour ce chemin-là, mais en tant que féministe.
Ce qui, moi, m'a aidé beaucoup, c'est une rencontre. Ouais, c'est mon meilleur pote qui, lui, son ex, il a rencontré un mec qui était en train de faire un bébé par GPA. Et donc, il est tombé amoureux de ce mec. Et finalement, il a adopté aussi le... Enfin, quand le bébé est arrivé, il est devenu le deuxième papa de ce bébé. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et maintenant, il n'est plus avec le père. Pardon, c'est compliqué comme histoire. Mais enfin, bref.
La vie.
La vie, voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et le fils qu'il a quand il était là. Et de voir que leur bonheur, leur relation... que c'était tout à fait possible, des très simples, hors des sentiers battus, ça m'a un peu ouvert les chakras. Mmh. Je précise que la GPA, je ne sais pas encore ce que j'en pense. Je sais juste que j'ai beaucoup de respect pour cette famille-là, et évidemment pour ce petit garçon, et que du coup, il ne faut pas tout mélanger parfois. De toute façon, il est là, voilà, on ne va pas le leur faire payer nos positionnements politiques, je précise. Et donc, ouais, cette rencontre avec mon meilleur pote Anto, ça a été assez décisif. Dans le fait de m'autoriser à le vivre, à le faire. Mais je pense qu'on a tous, on rencontre tous, quand on cherche, on finit par trouver un peu les personnes qui ont un peu d'avance, qui ont un ou deux, trois, quatre ans d'avance sur nous, quoi. Ouais.
Bah ouais, et c'est sûr que les personnes... Et je te rejoins parce que moi aussi, c'est la rencontre d'amis queer dans mon entourage qui m'a aussi façonné, changé, influencé. Bien sûr. Même d'écouter des podcasts, d'écouter des récits.
Bien sûr, ouais.
Ça, c'est vraiment, ces dernières années, ça a été... Ouais, moi, ça m'a fait du bien de me wokiser. C'était pas gagné à la base.
Mais moi, je pense que si, sans le féminisme, sans tous les bouquins, tous les podcasts, j'en serais restée dans un discours très brutal vis-à-vis de moi-même, me dire « Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi toi, t'arrives pas à te caser? T'es moins bien que les autres, faut que tu fasses un régime, faut que tu fasses du yoga, faut que tu fasses... Je sais pas ce qu'il faut faire pour trouver un mec, mais faut que tu fasses... faut que tu sois bonne, faut que tu sois docile. » Enfin, je serais toujours en train de me flageller, en fait.
Ouais.
Et j'aurais pas avancé d'un iota, je pense. Et j'aurais jamais osé prendre ma vie en main de manière radicale. Donc, on le jouait. Toute cette révolution, en fait. Parce que le féminisme, c'est un mouvement politique, mais j'ai l'impression que c'est aussi un mouvement artistique.
Ouais.
Parce qu'il y a tellement de bouquins, de spectacles, de films. Ça s'exprime partout, quoi.
Carrément.
Et c'est toutes ces voix, tous ces discours, je trouve qu'ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de force.
Est-ce que je peux te poser les questions du questionnaire de Proust ?
Oui.
Judith, la qualité que tu préfères chez un homme ?
La gentillesse.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Pareil, la gentillesse. Oh, et l'humour aussi.
Le principal trait de ton caractère ?
La sensibilité.
Ah oui, une question que je vais te poser que j'ai oubliée. À un moment, est-ce que moi je me suis posé la question, mais je l'envisage plus. Tu pensais faire un enfant avec un couple gay, un couple d'amis gays ?
Oui, j'y ai pensé. Je me suis inscrite sur un site de coparents. J'ai un peu envisagé cette option. J'ai rencontré un couple, mais en fait, je voulais pas faire un enfant avec un couple. Je me serais toujours sentie en
La troisième roue du carrosse.
Ouais,
un peu,
c'est ça. Et puis du coup, pas à égalité face à eux. Je pense que si j'avais eu un ami que j'aime d'amour, qui avait eu envie de faire un enfant à ce moment-là, j'aurais pu envisager une coparentalité. mais avec quelqu'un que je connaissais déjà, ouais. Se rencontrer pour ça, je trouvais ça...
Un peu glauque. Ouais.
Bah, j'arrive, ça marchait pas, en tout cas. Ouais. Pas assez naturel.
Et t'as pensé à demander à un ami son sperme ?
Non.
Ouais.
Je voyais pas à qui demander autour de moi. Et puis, après, j'étais, mais dans quelle situation ça va le mettre ?
Ouais.
Enfin, je sais pas, non, ça me disait pas trop ça.
Ouais, parce que ça rajoute du secret, en fait.
Ouais, c'est ça. Puis du coup, peut-être pour l'enfant, le sentiment d'être un peu abandonné.
Ouais.
Si le mec, il est un peu dans ma vie, c'est mon pote, mais qu'il veut pas le reconnaître. Ouais. Qu'est-ce que ça envoie ? Enfin, je sais pas, je trouvais ça...
Ouais.
Ça me donne... Je juge pas du tout, hein, mais moi, ça me bottait pas trop.
T'étais proche de ton père avant qu'il décède ?
Ouais, j'étais très proche de mon père. C'était une des raisons pour lesquelles... j'ai hésité à me lancer dans ce parcours parce que moi j'ai adoré avoir un papa et donc j'aurais aimé pouvoir offrir ça à mes enfants, hein. Mais bon, je pense qu'après je me suis dit mieux vaut leur offrir la vie dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui plutôt que d'attendre un truc parfait.
Et puis au final on dit papa, mais c'était une personne dans ta vie.
Oui.
En fait, au final. Et on peut trouver des...
Bien sûr, et puis eux, ils auront d'autres personnes autour d'eux qui s'attacheront, et puis... Enfin voilà, l'important, c'est d'avoir des gens qui vous aiment et d'en aimer, quoi.
Le principal trait de ton caractère ?
La sensibilité.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
De pouvoir leur faire confiance, comme on dit. La...
Honnêteté ?
Ouais, l'honnêteté, ouais. Ou c'est d'être... Ouais, c'est ça, de pouvoir compter sur eux, ouais.
Ton principal défaut ?
J'en ai plein. peut-être que parfois je suis... ça va avec la sensibilité. Peut-être que du coup, parfois un peu trop extrême. Des réactions peut-être un peu trop vives par moment. Mais j'y travaille.
Ouais. Oui, et puis on peut pas... C'est aussi... c'est pas parce que j'imagine qu'on est enceinte ou on va avoir un enfant qu'on tout d'un coup, faut se mettre la pression de devenir la personne parfaite.
Ah bah oui, ouais.
Compliqué de... On continue d'être un être humain complexe, névrosé, et qui fait de son mieux, quoi.
C'est ça. Exactement, t'as raison.
Ton occupation préférée ?
Écrire, je dirais, ouais.
T'as toujours voulu être journaliste ?
J'ai toujours voulu écrire.
Okay.
Je savais pas tout à fait sous quelle forme. Mais oui, j'ai toujours voulu. Toujours voulu écrire.
Ton idée du bonheur ?
Ma famille, du coup.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Oh là là, il pourrait y en avoir plein des grands malheurs, mais... je pense que ça aurait été, justement, de pas avoir d'enfant, ça aurait été très dur pour moi. Et maintenant... ce serait de pas réussir à bien transmettre ce que je voudrais.
Où aimerais-tu vivre ?
Paris, mais dans un plus grand appart.
Encore plus grand que celui dans lequel t'emménages.
Ah ouais, j'aimerais avoir un immense appart, tu vois, avec un truc sur les toits. Enfin, tant qu'à faire, si on rêve, voilà quoi.
Il faut que ton bouquin soit un best-seller.
Ouais, c'est ça. Ou dans ces petites maisons là, les gens qui vivent dans Paname, avec une petite maison avec un petit jardin. Ah, mais ça c'est des stars de Hollywood, ça. Faut être milliardaire.
Faut être milliardaire, je pense.
Ouais.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Ah tout, tellement de choses. Ouais. L'injustice, la violence, le capitalisme, enfin tout quoi, tout ce contre quoi on essaie de lutter.
Comment aimerais-tu mourir ?
Tranquille, dans mon sommeil, sans m'en rendre compte. Vieille, très vieille.
Ton état d'esprit actuel ?
Positive et combative.
Merci Judith.
Merci.
Et voilà, c'était Judith du Portail, comme je lui suis reconnaissante pour ce moment, comme je l'aime. Quelle femme généreuse, courageuse, comme sa voix fait du bien. Attention, disclaimer, je dis que c'est 25 ans l'âge idéal pour congeler ses ovocytes, mais certaines gynécos préconiseront plutôt 30. Évidemment, voilà, les discours varient, et comme Judith et moi le disons, nous ne sommes pas médecins, pas spécialistes, pas doctorantes en bioéthique. Nous avons livré notre ressenti personnel sur une question très à vif. Je ne vais pas développer plus en outro parce que, comme je l'ai dit en intro, j'ai une très forte migraine. Mais j'espère que cet épisode vous a apporté. Moi, je suis très fière de cet épisode parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le podcast peut donner des moments de divertissement, mais peut-être aussi des moments d'apaisement, des moments de réponse. Et je crois qu'on a été J'espère que, voilà, que vous avez senti qu'on partageait quelque chose avec vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous aime bien fort. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.